Donc, ce matin, je fais une suite. Ça va être compliqué de vous expliquer ça. Je vais essayer d'y arriver. Il y a deux dimanches, j'étais ici. Et j'ai commencé un sujet. Et la semaine passée, j'étais à l'inauguration de notre nouvelle église de la Chute. Et j'ai amené un autre sujet. Et là, aujourd'hui, je vais faire la suite des deux sujets des deux semaines avant. Vous voyez? Fait que ceux qui n'étaient pas à la Chute, vous vous rendrez compte de rien. C'est ça. Vous ne pourrez pas dire que ce n'était pas la suite, non. C'est vraiment une connexion de ces deux idées-là qui sont très, très proches. J'appellerais ça de la faiblesse humaine à la puissance de la grâce de Dieu. Vous savez, on va s'inspirer juste en commençant d'une idée qui était là il y a deux semaines. Je parlais de la haine de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont comme réagi à ça. Puis c'était ça l'idée. Ils se sont demandé est-ce que ça se peut, est-ce que ça se peut pas, si tu es allé trop loin. Vous savez, ici, dans cette église, on aime ça, lancer des idées, des fois, qui provoquent et qui déconstruisent, des fois, les conforts dans lesquels on se place et puis qui nous font réfléchir un peu plus. Et puis, c'est vraiment extrêmement important. Donc, les moments difficiles. Qui a déjà eu des moments difficiles ici dans sa vie? Personne. Donc, on sait que ça fait partie de la vie, puis ça ne se règle jamais, cette histoire-là, d'abord. Ça ne prendrait pas de nouvelles, qu'on va même tous en mourir un jour. De tout ce que le péché a produit dans la nature humaine. Donc, c'est important de comprendre qu'on est faible et on est fragile et on est pécheur de toutes les manières possibles. Donc, c'est pas juste moralement, c'est nos corps physiques sont affectés par la chute. Notre état psychologique, mental est affecté également. Tout est affecté dans l'être humain. Donc, évidemment, c'est assez difficile d'imaginer qu'on peut traverser une vie sans jamais faire face à des situations difficiles. Donc, les moments difficiles, ces moments où nos forces et nos compétences nous abandonnent, sont des moments que nous détestons le plus. Pourquoi? Car ils nous montrent ce que nous sommes vraiment. Si on ne vivait pas de moments difficiles comme croyants, s'il n'y a pas des circonstances qui venaient ébranler nos certitudes puis nos conforts, on serait des gens dangereux. Il n'y a rien de pire qu'un croyant qui se croit marcher de victoire en victoire et qui ne reconnaît pas ses faiblesses et ses défaites. Donc, nous préférons de loin être revêtus des œuvres et des compétences qui montrent et qui révèlent nos forces, évidemment. Mais Dieu, lui, nous veut revêtus de sa seule justice. Donc, c'est complexe, cette histoire-là, parce que Dieu, on a l'impression qu'il prend un malin plaisir, c'est malin, Dieu. Il prend un certain plaisir à défaire des belles constructions qu'on fait. Et puis, et ce qui est compliqué dans ça, c'est que ça ne signifie pas que les choses auxquelles Dieu nous appelle, à travers les dons qu'il nous donne et son dessein, nos vocations, à laquelle il nous invite à participer à son œuvre, à le servir, puis faire des choses. Donc, on fait des choses. C'est pas anti-chose. C'est pas anti-faire des choses. Mais à la fois, ce sont jamais les choses qui posent un problème. C'est comment nous, on récupère les choses, puis on en fait quelque chose pour notre gloire tout le temps. C'est plus fort que nous autres. On est des maniaques de nous-mêmes, des obsédés de soi, des êtres narcissiques. Tout ce qu'on peut faire qui nous aide à devenir quelqu'un, on le prend sur notre compte, puis on en fait quelque chose avec ça, puis c'est tout le problème. Donc, le brisement que Dieu amène dans nos vies, par le réveil de nos faiblesses, est un catalyseur de vérité sur nous-mêmes, qui à la fois révèle nos vrais sentiments, mais à la fois permet à Dieu d'agir à nouveau. C'est ce qu'il faut comprendre. Dieu n'agit pas le plus souvent quand on est fort et qu'on est en possession de tous nos moyens. En fait, quand c'est ça qui se passe, c'est nous autres qui agissons, c'est nos projets. Le plus souvent, Dieu agit à travers la faiblesse. Et on va lire le verset qui est tout destiné pour parler de ça un peu plus tard, dans le deuxième épître de Paul aux Corinthiens. C'est lorsque je suis faible qu'en fait je suis fort. Donc, je relis ça, le brisement que Dieu amène dans nos vies par le réveil de nos faiblesses et est un catalyseur de vérité sur nous-mêmes, qui à la fois révèle nos vrais sentiments, haine et colère, mais à la fois permet à Dieu d'agir de nouveau. Haine et colère. Donc, il y a deux semaines, c'était cette idée qui est extrêmement importante, c'est d'admettre nos vraies colères devant Dieu. On est dans un monde, le monde évangélique aujourd'hui, qui a stéréotypé beaucoup les choses, je pense. Il y a quelqu'un qui me disait cette semaine qu'un jour, il était appelé à donner son témoignage dans une église. Et l'église en question, avant de donner son témoignage, ils ont dit, on va t'envoyer un formulaire de comment ça marche donner un témoignage chez nous. Fait qu'il reçoit la feuille. Et c'était codé de façon qu'il faut que tu dises telle chose, telle chose, telle chose, puis tu conclus de telle façon. Et c'était l'idée, il faut que tu commences par dire comment ça allait vraiment mal ta vie avant. Puis là, il faut que tu expliques là, toutes les craintes et les tremblements de ta rencontre avec Jésus et comment soudainement ça s'est mis à aller de mieux en mieux et tellement mieux que là, c'est devenu glorieux. Donc, vous savez, il y avait cette espèce de pattern que il faut que tu montres que maintenant, tu es vraiment très heureux, là. Puis, c'est Jean, en fait, Jean de Courville, qui nous disait ça. Et ce qu'on se disait, mais il arrive quoi si nos vies ne ressemblent pas à ce pattern-là? Écoutez, moi, j'étais très heureux avant ma conversion. Je l'ai témoin après ma conversion. Est-ce que je suis le seul qui a vécu ça? Moi, ça allait bien, ma vie. Avant, j'étais un musicien. Le groupe dans lequel je venais de signer un contrat avec Sony Music. On s'en allait faire des albums. Puis c'était la compagnie Bose nous prêtait un méga système de son gratuit. Puis, tu sais, c'était comme... ça allait bien, vraiment. Il y a eu des problèmes, mais c'était... Donc, moi, si quelqu'un me présentait Jésus, va te délivrer, va te rendre heureux, je te dis, ben non, merci. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et quand je me suis tourné vers Jésus, les problèmes ont commencé. Et le problème était assez grave quand même, c'est que moi et lui, on n'était pas d'accord sur plein d'affaires. On jouait une chanson, moi puis mon groupe, qui s'appelait Highway to Hell. Et, et ça exprimait notre désaccord. Donc, moi, je suis devenu chrétien et là, j'ai fait face à ma misère. Mais ma misère que je voyais pas avant, ça allait super bien. Et puis on rencontre toutes sortes de situations. On se met à aller à l'église et puis, bon... ma carrière de musicien d'un bar, ça ne fit plus. Là. C'est comme... Et je trouvais ça vraiment plate. Je me souviens d'avoir dit à Dieu, quand j'ai décidé d'abandonner la musique dans le monde, de dire, tu veux que je sois malheureux? Bien, je vais l'être. On m'a lâché, là, puis ça... Et puis, il y a eu plein de combats comme ça. Donner mon offrande à l'Église. Vous voyez des gens donner, comment ils donnent? Tu t'informes, vous donnez combien? Ils disent, bien... Pas de pourcentage particulier, mais c'est plus ou moins 10%. C'est, ah, OK. Puis là, je dis, puis vous, c'est quoi vous autres? Tu sais, je suis Pasteur Jeff, puis d'autres. Puis vous autres, c'est entre 0 puis 10, là, vous êtes où? Tu sais? La plupart dans cette église m'ont dit qu'ils étaient au-delà de 10. OK. Et là, j'ai fait un deal cette fois-là. Moi, je gagnais 250 $ clair par semaine, 300 brut. Fait que ça coûte cher marcher avec Dieu, vraiment. Fait que j'ai commencé à dire, bon, ben, je voulais pas donner, mais il y a quelque chose qui me disait, passe pas à côté du plan de Dieu pour ta vie, puis vas-y, puis apprends à obéir à... C'est tough, ça, obéir à Dieu, c'est comme on cherche des raisonnements pour contourner les affaires, puis théologiquement, c'est pas nécessaire. Mais moi, ça marchait pas, mes couloirs de côté n'arrivaient pas à me... En tout cas, bref, je devais commencer à donner ce qu'il fallait. Et à la même époque, j'expliquais ça mercredi, j'ai arrêté de consommer des substances illicites. J'en consommais à peu près 100 piastres par semaine, à l'époque. Le cocktail. Et là, j'ai arrêté de consommer. Et un jour, à mon travail de chef du syndicat, qui est un antichrétien, qui me disait que je me faisais avoir par mon église, parce qu'il dit, eux autres, ils prennent ton argent. Vous savez, la question fatigante, ils prennent ton argent, eux autres. J'étais là, comment tu donnes? Bien là, j'ai dit, je te donnerai pas le montant, c'est pas de tes affaires, mais oui, je donne. Et là, il dit, bien, ouais, c'est ça, hein? C'est toujours ça, les sectes, il faut donner notre argent. Et là, il m'est venu un éclaircissement intéressant. Il s'appelait Roger, le gars. Je lui dis, Roger, en fait, c'est vrai que... Je lui dis, comment je donne 30 piastres par semaine. J'en gagne 300, il le savait, c'était le chef du syndicat. Mais j'ai dit, depuis que je marche avec Dieu, je ne consomme plus de dope. Fait que j'économise 100 piastres. J'en donne 30, j'en ai 70 de plus dans mes poches. Il est parti. mais ce que j'essaie de dire, c'est que c'est compliqué de marcher avec Dieu, mais pas à cause de Dieu, à cause de nous. Il y a une nature dans nos cœurs, notre nature humaine a été corrompue par le péché et rebelle à Dieu. On l'haït sans cause, nous dit Jésus lui-même. Ils m'ont haï sans cause. Donc, il y a une partie de nous-mêmes qui n'aime pas Dieu. Et spécialement quand Dieu obéit pas à ce qu'on voudrait qu'il fasse dans nos vies, ou Dieu ne nous demande pas permission avant d'arriver à un défi problématique dans nos vies. Et j'ai vraiment découvert l'importance de m'admettre mes colères et mes haines de ce que Dieu fait. Et il me semble que c'est extrêmement important d'avoir devant Dieu... cette espèce d'authenticité avec lui. Il est capable de nous supporter, le Seigneur. Vous savez, ça fait penser un peu à toute la question d'Élie, hein, quand il a dû abattre les 850 prophètes d'Astarté et de Baal. On sent la colère du gars qui, à un moment donné, se pousse, se sauve, et il croit qu'il est tout seul. Puis, comprenez-vous le conflit qu'il a? Je parlais il y a deux semaines de la colère de David lorsque Uzza est mort parce qu'il voulait aider Dieu dans l'arche, alors que David est en plein temps de louange. Dieu en a burné un à terre direct, là. Il a cassé le party, le Seigneur. David était irrité contre l'Éternel, il est écrit. Donc, tout ça, c'est la vie. C'est notre vie avec Dieu. Et souvent, on aime la jouer esthétiquement, c'est-à-dire qu'on va faire semblant qu'on aime tout ce que Dieu amène parce qu'on veut être des bons chrétiens, puis on veut avoir l'air de ça, puis on va dire, moi, j'aime le Seigneur. Et c'est une chose que Dieu va démolir dans notre vie, notre faux amour pour lui. Parce que si on joue cette game-là comme ça, c'est parce qu'on essaie de gagner son approbation en se comptant des mensonges. Mais le problème, c'est que nos mensonges, ils nous les dévoilent aussitôt. Donc, c'est pour ça qu'on va lire ce texte de Pierre que j'ai lu cette année plus tôt. Parce que ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas ce qu'on fait pour lui, bien qu'il nous appelle à faire des choses pour lui. C'est bien important de dire, il nous appelle à faire des choses pour lui, il appelle des gens à faire des grandes choses pour lui. Il n'y a pas de problème ici. Mais ce qui est important, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Et toujours, Dieu va nous ramener là. C'est le syndrome de Caïn qui a voulu présenter avec Dieu, à Dieu, ce que lui pouvait faire de bon avec les fruits de la terre. C'est ce qui a été refusé. Et Abel s'est présenté avec un sacrifice. Voilà ce que Dieu veut. Couvert par le sacrifice. Signe de la grâce et du sacrifice immolé de Jésus-Christ. J'aime cette histoire-là de Jean, de l'évangile de Jean, et qui se répercute un peu dans tous les évangiles, parce que Pierre est probablement pour moi le modèle le plus intéressant à qui je peux m'identifier, parce que Pierre, c'est le gars complètement imparfait. Vous savez, quand vous regardez un homme de la stature de Paul, écoutez, vous écoutez ses histoires, ses voyages, il devait être dur à suivre, là, lui. C'est un intense. Et on s'est déjà dit également, qui s'est déjà dit ça? Que ferait Jésus à ma place dans une situation? Moi, je me dis plus d'affaires de même. Jésus, à ma place, il ferait la bonne affaire, mais moi, je risque de faire la mauvaise. Réglons ça. Mais tu sais, dire, moi, je vais essayer... Écoutez, je ne dis pas de ne pas faire la bonne chose comme Jésus le ferait, c'est bien évident, mais on peut rentrer dans des espèces de canaux de réflexion où on essaye de jouer le bon chrétien. Jouer le bon chrétien. Et donc, Pierre, c'est ce qu'il faisait. Hein. Vous savez, je ne dis pas tous les textes, mais... Moi, je trouve ça magnifique, cette histoire où Pierre, c'est le gars qui veut toujours montrer au Seigneur que lui, il est en avant des autres. Tu sais, il a l'air du fatigant qu'aussitôt que Jésus a besoin de quelqu'un pour quelque chose, c'est moi, je vais y aller. Vous savez, il veut tellement, mais il veut mal. Il veut gagner l'approbation du maître plutôt que de recevoir le maître son approbation gratuitement. Donc, quand Pierre va dire à Jésus, après que Jésus ait annoncé qu'il allait se faire crucifier, il va dire, non, tu ne te feras pas crucifier, n'en déplaise à Dieu. Puis, comprenez, Pierre, c'est intense, son amour pour Dieu. Et j'aime beaucoup réfléchir ces temps-ci, amour, grâce, bonté, justice, tous ces mots-là qui veulent dire quelque chose en 2016, on le voyait mercredi, qu'est-ce que c'est la justice? Quand on veut regarder certaines doctrines et qu'on entre dans le rapport avec la justice de Dieu, est-ce qu'on prête à la justice de Dieu l'entendement qu'on a, nous, les Occidentaux? Qu'est-ce qu'on pense, nous, de la justice? Qu'est-ce que l'Écriture dit de la justice? Ces deux sujets, là, ça se touche même pas, tellement c'est différent. Donc, Pierre aimait Jésus. En fait, Pierre pensait aimer Jésus. Jésus sait très bien que Pierre se fait accroire qu'il l'aime. Et Pierre essaie d'entrer dans son concept de ce que c'est aimer quelqu'un, fait qu'il se tient avec Jésus puis il est là partout. C'est correct, il est appelé à ça. Mais quand Jésus lui dit, « Pierre, tu vas me renier. » Demain matin, le coq va avoir chanté, là, puis tu vas m'avoir renié trois fois. Tu vas avoir juré ne m'avoir jamais rencontré. Est-ce que c'est un comportement de quelqu'un qui aime ça? Renier avoir connu quelqu'un. Messieurs, si votre femme disait à quelqu'un, parce que vous auriez quelque chose de gênant, que vous n'avez jamais vu, que vous n'avez jamais rencontré, que vous n'avez jamais parlé, c'est de la traîtrise profonde, c'est blessant. C'est... Il n'y a rien qui est du domaine de l'amour, de l'affection dans ça. Et Pierre ne croit pas qu'il est capable d'être un traître, qu'il est capable de manifester son vrai cœur. Donc, si Jésus a prévu qu'il allait le renier, c'est pas parce que ça l'amuse de montrer ça à Pierre juste pour les foirer par terre, c'est juste, Pierre, je dois faire ça dans ta vie parce que tu te fais à croire que tu m'aimes plus que tous ceux-ci. Maintenant, demain matin, tu vas comprendre que tu ne m'aimes pas plus que ceux-ci. Donc, ça nous ramène dans Jean chapitre 21. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? » Vous savez, vous l'entendez, la déclaration. C'est comme si Jésus disait, « Tu le crois-tu autant qu'avant maintenant? » As-tu compris l'expérience que je t'ai fait vivre? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu? » Il lui dit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » L'expérience est fascinante parce qu'on ne peut pas dire que Pierre n'était pas attaché à Jésus. Pierre aime Jésus. C'est ce qu'il répond. Mais c'est comme s'il lui disait, « Mais je ne peux pas t'aimer au-delà du traître que je peux être. » C'est ça que je suis. Et la troisième demande, quand le Seigneur lui redemande la troisième fois, Pierre est attristé. Il lui dit, « Je sais que tu sais tout. » Il entre dans un rapport avec Jésus qui est celui où je ne peux pas, Seigneur, te faire croire des choses. Tu vois tellement clair dans ma vie que je vais arrêter de te dire des affaires qui ne sont pas nécessairement vraies, mais je t'aime. Pourquoi c'est important pour Pierre de vivre une expérience difficile comme celle-là? Parce que c'est humiliant. Écoutez, tous les autres apôtres le savent que Pierre a fait ça. Comme on dit, les gens se parlent. En fait, l'importance pour Pierre de prendre conscience de sa folie, c'est que lui a été choisi d'avance pour être le premier prédicateur qui va ouvrir cette alliance de la grâce à la Pentecôte. C'est vraiment important que Pierre comprenne qu'il n'est pas le bas du monde, qu'il est juste un instrument utilisé par Dieu, et que la gloire qui vient avec cette vocation va toujours devoir dans sa vie s'accompagner de la réalité du fait qu'il sait qui il est. La force de Pierre, ce ne sera pas Pierre est dans sa force, mais c'est une force qui vient de la pure bonté de Dieu, de la grâce de Dieu dans sa vie. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de considérer la grâce de Dieu comme étant le lieu de départ de quelque chose de glorieux que Dieu veut faire dans nos vies. Mais ce n'est pas à partir de nos capacités, nos compétences, notre bonne volonté, notre intelligence. Ce n'est pas le foyer de départ de ce que Dieu veut faire. Ça, c'est des outils, c'est des moyens que Dieu va utiliser selon qu'il nous les a donnés. Mais ce n'est pas les racines du point de départ de ce que Dieu veut faire avec nous. Le point de départ doit être la seule grâce de Dieu. Donc, pour ça, allons dans 1 Corinthiens chapitre 12, 9 et 10. Il m'a dit, ma grâce te suffit. C'est quoi j'ai dit? Mais c'est dans 2 Corinthiens. Okay. 2 Corinthiens 12, 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. On a souvent lu ce passage-là. Hein? C'est un classique dans l'Écriture. Mais est-ce qu'on s'arrête à comprendre ce qui vient d'être dit là? Donc, le texte affirme que Dieu veut faire des choses à travers la vie de Paul. Donc, c'est pas comme si Dieu voulait nous amoindrir puis nous rendre complètement inertes. Mais Dieu est en train de dire à Paul, c'est quand tu es faible que moi, je peux être fort. Et quand tu es fort, Paul, il reste plus de place pour moi. Fait que c'est ta force à toi qui paraît. C'est éloquent comme texte. Je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, les outrages, les calamités, dans les persécutions, les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ici, le genre de faiblesse, c'est des faiblesses qui viennent en bonne partie de l'extérieur de lui-même. C'est des persécutions, c'est des détresses. C'est tout ce qui l'empêche probablement de faire tout ce qu'il avait projeté de faire, mais que des faiblesses qui sont de nature physique ou qui sont de nature politique, qui viennent empêcher Paul, freiner Paul, et Paul panique. Et Jésus-Christ ne lui panique pas du tout. Il dit, Pierre, Paul, je ne suis pas empêché d'agir, moi, quand tu es faible. Au contraire, j'agis plus encore. Mais c'est un discours qui nous échappe. Donc, venons-en au terreau fertile. La grâce de Dieu n'est pas seulement le don immérité de Dieu pour mon salut, c'est quand même énorme, non, mais la grâce de Dieu est aussi le terreau fertile d'où émane une grâce efficace l'accomplissement des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Le terreau fertile. Qu'est-ce qu'un terreau fertile? Terre végétale riche en matière organique, fertile et enrichie de produits de décomposition, fumier et débris de végétaux décomposés. Les faiblesses de Paul, vos faiblesses à vous, mes faiblesses à moi, sont en quelque sorte le fumier qui, planté dans les racines de l'œuvre de la grâce pour nos vies, va faire émerger quelque chose. Donc, en agriculture, et je ne suis pas un spécialiste de la question, on sait très bien qu'on enrichit le sol avec du fumier. Une matière avec laquelle on ne veut même pas toucher avec nos mains, c'est de la pourriture, c'est de la... J'hésite à utiliser le vrai mot, du fumier. Il n'y a rien qui sent bon dans ça. Et je trouve l'image intéressante, c'est que quand je suis capable de reconnaître qui je suis, mes faiblesses, ce fumier qu'on porte en nous, c'est comme si Dieu disait, mais c'est ça. C'est à partir de là que moi je commence une œuvre dans ta vie. Comme en agriculture, ça pousse mieux, ça pousse bien parce que du fumier. Parce qu'on enrichit la terre dans le terreau avec du fumier. Tu sais, ce qui nous amène à dire que quand on entend le mot pourri, on ne parle pas de quelque chose de négatif, on parle de quelque chose d'extrêmement positif. Ce que Dieu va utiliser. De la même façon, et c'est une image intéressante, qu'en agriculture, ça pousse en raison de deux réalités. D'abord, ce qui est dans les racines, le fumier qui est là, qui est caché, qui agit dans les racines. Mais il y a quelque chose d'en haut qui vient, la pluie, le soleil. C'est quelque chose en bas avec quelque chose en haut qui se rencontre. Et ça fait pousser des fruits. Donc, c'est un peu comme si nos vies, pour porter du fruit pour Dieu, c'est moins nos compétences, nos réussites, que nos échecs, nos faiblesses, qui sont le fumier qui va rencontrer cette grâce excellente qui vient d'en haut et qui va produire quelque chose, qui sera moins à notre gloire, mais davantage à la sienne. C'est pourquoi Paul comprend qu'il peut se plaire dans les détresses, dans la faiblesse, parce que c'est au fond, dans cette condition-là, qu'il est rendu fort, ou que la force ou la puissance de Dieu s'exerce à travers lui. Donc, ça déconstruit l'image qu'on se fait des fois dans le christianisme actuel, comme s'il y avait... Regardez, il y a une énorme différence entre utiliser Dieu, sa parole, mes compétences pour me bâtir une carrière, parce que le christianisme commence à ressembler à ça. On est des chrétiens, puis on a des projets. Tout le monde ouvre sa petite PME, son projet, son ministère à lui, puis avec ses compétences à lui, puis on bâtit des choses. Puis on réalise pas qu'on bâtit plein de choses sur notre justice propre, puis nos compétences, puis nos affaires. On n'est pas en train de demander à Dieu, « Tu m'as-tu vraiment demandé de faire ça? » Ou « C'est moi qui est dans le 21e siècle qui veut m'accomplir, faire des grandes choses pour Dieu. » Dieu n'est pas séduit ni ébloui par la magnificence de nos œuvres. Il ne l'est pas. Il ne le sera jamais. Ce qui bénit le cœur du Père dans nos vies, c'est lorsqu'il voit son Fils. C'est une magnifique vérité. Donc, il y a une énorme différence entre utiliser Dieu, sa parole et mes compétences pour me bâtir une carrière où Dieu se met au service de ma réussite, de mes rêves. en vue d'entrer dans ma réussite, dans ma vocation, prétextant que c'était les œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour ma vie. Or, dans le discours de Paul, grâce et réussite sont indissociables. Parce que ce qui marque la réussite de la vocation d'un chrétien n'est pas d'abord dans ses compétences et pas même dans ses connaissances, mais tout est dans son rapport de dépendance à la grâce de Dieu. Maintenant, un petit bémol, on n'est pas en train de dire que les compétences et la connaissance sont inutiles. C'est des outils fantastiques, on en a besoin, on doit étudier, on doit comprendre, on doit devenir compétent. Mais c'est comme pas ça l'engrais principal. C'est pas ça le fumier que Dieu va utiliser dans nos vies pour que ça marche, pour que les fruits sortent. C'est nos faiblesses qui nous font dépendre de la grâce de Dieu et qui, par cette grâce, rend les choses, la puissance de Dieu, disponible. Si mon rapport à Dieu consiste à me construire une vie sur mes projets, je tombe dans le syndrome de Caïn. C'est encore la même chose. Caïn a présenté à Dieu ce qu'il croyait avoir fait de bon pour Dieu. Dieu l'a refusé. On va lire un dernier texte. Et juste avant de lire ce dernier texte, je vais prendre le temps de vous raconter une anecdote que j'ai racontée à la chute la semaine passée, puis j'ai peut-être déjà conté ça ici. Mais la folie de nos propres cœurs nous est jamais pleinement révélée. C'est pire que ce qu'on pense. OK? Donc, il suffit quelquefois d'entrer dans certaines expériences avec Dieu pour prendre conscience qu'il y a une part de folie dans des régions de nos propres vies qu'on n'a jamais investi pour avoir cette folie-là. Je ne sais pas si vous me suivez. Parce qu'on connaît une couple de nos folies, hein? On les gère dans la vie de tous les jours, mais il y en a plein d'autres. Donc, je vais me mettre en scène pour vous en compter une des miennes. Aujourd'hui, c'est drôle, à l'époque. Donc, il y a à peu près 7, 8 ans, 9 ans de ça, je revenais d'Afrique un soir et mon frère Gilles est venu me chercher à l'aéroport. Il m'a même couché chez lui à Laval, à Chomedey. Et le lendemain, il allait me porter au métro Montmorency pour que je me rende à Berry des Montigny, prendre Orléans Express pour m'en aller au Saguenay chez nous. Et, OK. Donc, le lendemain, vers 7-8 heures, il me dépose au métro Montmorency. Et j'ai vécu là une expérience qui est, ma foi, révélatrice de quelque chose que j'ignorais. Moi, je n'avais pas pris le métro depuis 25 ans. Parce qu'à 16 ans, moi, j'ai eu une voiture. Et je n'ai plus jamais eu besoin de prendre le métro puis l'autobus. Et moi, j'ai... j'étais allé à l'école en autobus. Là. Métro, autobus, quand j'étais jeune à Montréal, là, c'était des heures d'autobus par jour. Et... Donc, toujours est-il que 25 ans plus tard, j'arrive dans le métro puis j'ai ma valise à roulettes. Tu sais, quand t'arrives de voyage, t'as du stock, là. Une grosse valise à roulettes. J'ai un autre sac avec mon ordinateur dedans puis j'ai un autre morceau. Puis, tu sais, je rentre avec mon attirail dans le métro. Et là, j'arrive devant la guérite et puis je reconnais pas l'ameublement. C'était pas fait de même 25 ans avant. Et là, je me dis, faut que je me retrouve l'autre bord de ça. Mais comment on fait? Et je suis pris d'un malaise en disant, j'ai l'air d'un ignorant, là, c'est pas drôle, ça. T'sais, on aime contrôler, savoir ce qu'on fait. Mais là, je mets mon stock sur le bord d'un mur, puis je vais voir le monsieur dans comment est-ce qu'on appelle ça? Le guichet, oui, c'est ça. Et là... Je demande au gars comment il faut payer. J'ai dit, avez-vous encore des transferts, tu sais, parce qu'il y avait toutes sortes d'affaires dans le temps qui existaient. Puis là, le monsieur me regardait avec un smile. Là. je me sentais regardé comme un bizarroïde. Puis le gars avait l'air de se dire, mais quel énergumène que ce soit, ce gars-là, se présente ici. Et là, j'ai dit, en fait, ben, il dit, vous pouvez payer à moi. Je dis, OK, comment ça coûte? Il me sort un prix, 2 piastres et je ne sais plus combien, là. J'ai dit, pardon? Ça coûtait 35, 40 cents, ben, la dernière fois que j'ai pris ça. J'avais du petit change, j'avais un 20. Je suis obligé de casser un 20 pour prendre le métro. Où c'est qu'on est rendu? J'ai pas tout dit ça au monsieur, mais c'était juste que dans ma tête, c'était incroyable. Puis là, il a vu que je trouvais ça cher, mais c'est le temps passé, il s'est rendu de même. Et là, je paye, puis là, je ramasse mes bagages et je m'enfarge dans mes bagages. Parce que je ne suis pas capable de tout passer ça en même temps. Et là, j'ai l'air du bozo de service. Et là, le gars, il vient m'aider, il sort, il m'ouvre une porte plus large, il faut que je passe, merci beaucoup, monsieur. Et là, je suis gêné, là. Je suis comme, moi. Vous savez, il y a du monde hein, autour qui voyait ça. Il y avait plein de monde le matin, 7-8 heures, tu n'es pas tout seul à vivre. À prendre le métro. Et là, je suis saisi d'une gêne, d'une honte. Et puis là, je finis par descendre dans l'escalier roulant. Puis, on dirait que tout ce que je fais ne marche pas bien. Je suis toujours pogné dans mes bagages. Plutôt quelqu'un qui m'aide à pogner une roue. Puis, et je me disais, pendant que je descendais, je dis, lui, là, le gars en haut, là, il va compter ça à sa femme à soir. J'ai fait sa journée, là, lui. Il va dire, chérie, tu verras jamais quel énergumène aujourd'hui. Et écoutez, je m'assis dans le métro, ça décolle, je m'en vais vers Berry. Et là, je suis saisi d'une autre émotion différente, pire que la première. C'est que je regarde le monde autour de moi, puis là, je me dis, je suis parmi les pauvres ici. J'ai l'affreux sentiment d'être un bourgeois assis parmi la plèbe, le peuple. Et là, je me dis, c'est donc ben laid, comme... Tu sais, c'est comme si je raisonnais, je dis, mais où c'est que tu vas chercher ça, toi? Tu n'es pas un bourgeois, tu n'as jamais été de même. Et là, je me dis, ben, je ne peux pas chercher ça ailleurs qu'en moi-même, ça ne peut pas venir d'ailleurs, c'est moi qui vis ça. Et le bourgeois s'est réveillé ce matin-là. Et ça s'est calmé tranquillement de station en station. Je vais penser à d'autres choses. Et c'est dans ces moments-là où on réalise toute la folie qui nous habite et qu'on ne sait même pas encore. C'est une question de temps. Et la richesse du message de l'Évangile, c'est que c'est pour des nous autres que Jésus-Christ est mort. Il est mort pour ce qu'on sait. Il est mort pour ce qu'on ne sait pas encore, puis qu'on va découvrir au fur. Je me souviens d'un pasteur à Baltimore, un pasteur Tom Schaller, qui un jour, dans un message, avait dit quelque chose qui m'avait vraiment édifié, bien que ce n'était pas joyeux. Il avait juste dit, Dieu est bon, vraiment, parce qu'il dit, il nous révèle juste tranquillement, tranquillement à quel point on est cinglé. Parce qu'il dit, s'il nous faisait comprendre ça toute la même journée, là, ça, on ne pourrait pas le prendre. Donc, je veux juste vous encourager à une idée vraiment simple. On n'encourage pas le péché, on n'encourage pas la bêtise humaine, on s'en éloigne autant qu'on peut, puis il faut le faire avec zèle. Mais à la fois, on est qui on est par la grâce de Dieu. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 3, conclure avec un texte pour montrer que si on ne présente pas à Dieu Jésus-Christ, mais qu'on lui présente plutôt nos œuvres, nos réussites, bon, on risque d'en récolter de la fumée. De la fumée. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement, comme un sage architecte, et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Aucun autre fondement, nous dit Paul. Vous voyez encore Caïn et Abel. Caïn s'est présenté devant Dieu avec un autre fondement, ses réussites personnelles. Abel s'est présenté devant Dieu avec Jésus-Christ. L'image du sacrifice, c'est une image de Jésus-Christ. Tout se passe là. Mais attention, je ne suis pas en train de dire que ce qu'on fait, ce à quoi Dieu nous appelle dans nos vocations, nos appels, qu'il ne faut pas le faire ou par peur d'être dans notre justice propre. Non, non, on répond à l'appel de Dieu dans toutes ces choses, mais notre fondement doit rester Jésus-Christ. Verset 12. Alors, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, ou du bois, du foin ou du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée car le jour se fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. Donc, pour ça, je vous disais, une récompense de fumée. C'est pas les gens ici qui brûlent, c'est les œuvres, c'est l'image. Donc, toute œuvre dont le fondement de nos vies est bâti sur à la fois la volonté de Dieu et le fondement qui est Jésus-Christ sont des œuvres dont les récompenses subsistent. Mais ces œuvres-là, c'est les moins pénibles parce qu'elles sont en lui, par lui et pour lui. Ce qui nous rend pénible le plus la vie chrétienne, c'est tout ce qu'on veut ajouter, c'est tout ce qu'on veut faire, c'est tout ce qu'on veut bâtir par nous-mêmes pour je ne sais quoi, réussir quoi. Donc, on va se laisser là-dessus. Il est moins quart ce matin. Si vous voulez, on va juste prier. Et Michel va juste vous donner, après ça, quelques recommandations. Alors, Seigneur, mon Dieu, on veut te dire merci pour ta bonté, ta fidélité. Seigneur, c'est vraiment une grande nouvelle de savoir que c'est toi qui es fidèle. Ton œuvre, Seigneur, et ton œuvre, ton sacrifice est parfaitement capable de soutenir tout ce qu'on est. Seigneur, tu es mort pour nos fautes. Tu nous as rachetés, tu nous tiens dans ta main et personne ne peut nous en ravir, pas même nous-mêmes. Et Seigneur, comme c'est bon de se rappeler que la qualité de ton sacrifice est beaucoup plus fort que toute la folie de notre faute, de nos fautes. Seigneur, c'est une bénédiction de savoir que ce n'est pas nous qui te tenons, c'est toi qui nous tiens. Merci de bénir chaque personne aujourd'hui ici. Merci pour ta parole, merci pour ta bonté. Amen. Merci.